À voix nue, par Amélie Perrault. Toute cette semaine, je reçois
Gilles Mbembe, professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université de Wits à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Ce soir, quatrième épisode, politique de la circulation. Bonsoir à vous, Achille Mbembe.
Bonsoir.
Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce quatrième temps de notre rencontre. Hier, nous parlions du passé en partage et de ses résurgences dans les questions politiques contemporaines. Il y a dans toute votre œuvre un motif, une idée dont je voudrais parler avec vous ce soir. Cette idée, c'est celle de la circulation. Vous affirmez dans votre livre Politique de l'inimitié, publié aux éditions de La Découverte, comme tous vos essais dont nous parlons ensemble, vous affirmez dans ce livre que la circulation sera le maître mot du XXIe siècle. Hier, vous nous expliquiez la nécessité à vos yeux de l'idée de communauté, de penser le monde ensemble. Mais votre travail montre aussi à quel point les frontières sont devenues le lieu d'une profonde brutalité. Dans votre livre le plus récent, La communauté terrestre, vous ajoutez aux damnés de la Terre, titre du livre de Frantz Fanon, auteur qui habite une grande partie de votre œuvre, vous y ajoutez ces nouveaux damnés de la mer qui, au lieu de trouver aux frontières la possibilité de leur survie, viennent y rencontrer leur fin. Cette inégale répartition des capacités de mobilité qui veut que mon passeport me permette d'aller à peu près partout dans le monde mais que la réciproque ne soit pas vraie. Cette inégale répartition des capacités de mobilité, c'est l'une des grandes caractéristiques de notre temps, Achille Mbembe.
Oui, je pense en effet que la question de savoir qui peut bouger et qui ne peut pas bouger ou qui ne peut bouger qu'à certaines conditions, cette question, domine notre siècle, le début de ce siècle.
Et alors de quoi est-ce qu'elle est le nom, cette question? Vous employez des mots très forts, vous parlez d'un désir d'apartheid.
Mais je crois qu'elle renvoie déjà à une question qui a été là depuis, je dirais, le 15e siècle en particulier, au moment où l'Europe est sortie d'elle-même et est allée à, entre guillemets, la découverte d'autres régions du monde et à la rencontre avec d'autres peuples de la Terre. À partir du 15e siècle, se pose effectivement la question de savoir de quoi est fait le globe, en quoi consiste-t-il, qu'il habite, quelles en sont les ressources et, en fin de compte, à qui appartient-il? À qui appartient le monde? Comment peut-on le partager de telle manière qu'il soit profitable aux puissants? La colonisation et tout ce qui a suivi font partie de ce grand moment de partition du monde, d'érection des frontières, de couloirs de circulation, de mouvements, de mobilité forcée, comme à l'époque de la traite des esclaves, ou de mobilité choisie pour ce qui est des navigateurs et des commerçants. Et donc, il y a un ébranlement des populations, un grand mouvement qui occasionne la sortie de l'Europe de ses fils et filles qui essaiment à travers le monde, s'installe dans des contrées lointaines par le biais de la colonisation. Je crois qu'à la fin du XXe siècle, on assiste à un mouvement à l'inverse. Cette fois-ci, effectivement, ce sont des masses de populations, notamment dans les pays déshérités des Suds, qui se mettent en marche parce que les régions qu'elles habitent, sont devenues inhospitalières à la vie. Cette répartition neuve des populations mondiales, c'est ce qui est en jeu dans le nouveau régime de circulation dont nous parlons.
Ça veut dire que d'un point de vue français, par exemple, nous refusons une circulation dans le monde que nous avons nous-mêmes créée, quelque part?
Ah, mais justement, c'est-à-dire que le colonialisme, la traite des esclaves ou le capitalisme en général, ce sont de vastes cycles, au fond, de mobilité. C'est ce que déclenche ces gros événements historiques. Aujourd'hui, les grands mouvements de déplacement des populations sont également régis par cette logique du capitalisme. Mais de plus en plus, ces mouvements seront régis par les grands mouvements technologiques et par les grands désastres écologiques qui s'annoncent. La crise environnementale s'attaque en partie dans les pays du Sud aux moyens d'existence des gens. Elle rend la vie impossible là où, autrefois, il était possible de la conduire de façon plus ou moins décente. Et donc, je pense que cette concomitance de grand développement technologique, de la montée des brutalités politiques et de la disruption des grands équilibres environnementaux et naturels, tout cela va aboutir à de grands exodes.
Achille Mbembe, dans votre travail, par des retours historiques, vous montrez aussi comme nos démocraties sont historiquement en réalité des démocraties de semblables qui s'accordent avec le fait que des personnes soient vues comme autres, comme non semblables, et donc en dehors des principes démocratiques d'égalité, par exemple, exactement comme au temps de la colonisation.
Mais la démocratie, en fait, n'a jamais, au fond... Disons, c'est toujours accommodé de l'inégalité et de l'exclusion. Et c'est peut-être ça son paradoxe, parce que le projet démocratique, l'horizon démocratique, en son essence, suppose une égalité originaire entre les membres de la communauté politique. Deux, le projet démocratique, l'horizon démocratique... se définit par une volonté inconditionnelle d'inclusion. Démocratie et exclusion ne vont pas de pair, en principe. Or, dans la pratique, que ce soit dans les cités grecques ou dans les vieilles démocraties occidentales, aux États-Unis en particulier, la démocratie s'est accommodée pendant très longtemps de l'esclavage, par exemple. Elle s'est accommodée de l'exclusion des femmes, d'exclusion basée sur la race ou la religion ou l'ethnicité. Je pense que quelque part, dans leur fonctionnement historique, toute démocratie a été avant tout une démocratie des semblables.
Et alors, encore plus que de s'en accommoder, vous dites même que quelque part, nos démocraties ont besoin de cette violence, qu'il n'y a pas de démocratie qui existe sans son double, sa colonie, peu importe son nom et sa structure.
Oui, alors, justement, lorsqu'on étudie l'histoire de la colonisation ou de l'impérialisme, la République, la démocratie... Elle se développe, elle se cristallise justement au moment où la République s'étend hors d'elle-même, par le biais des conquêtes coloniales, par le biais de l'extraction de ressources issues de guerres interminables au loin. C'est-à-dire que pour pouvoir pacifier nos sociétés, nous avons eu besoin d'externaliser nos conflits et de les laisser, disons, se développer au loin. Et donc, le prix à payer pour notre paix intérieure, ça a souvent été la guerre à l'extérieur. Et donc, tout ça n'invalide pas le projet démocratique en tant que tel. Tout ça explique que la démocratie, au fond, elle est à venir. Elle est en avant de nous et... c'est à travailler à en assurer l'avènement qu'on est appelé.
Est-ce que les frontières aujourd'hui sont devenues le lieu par excellence de ce que vous appelez la nécropolitique, c'est-à-dire le fait que les États s'arrogent la possibilité de donner la mort? Et est-ce que le racisme est l'un des principaux moteurs de cette nécropolitique?
Oui, mais disons, les exemples sont légion.
On pense par exemple aux opérations de pushback en Grèce, le fait que les bateaux soient renvoyés en mer.
Oui, c'est-à-dire que l'Europe est devenue une forteresse. Elle est parsemée de camps. C'est-à-dire que la forme camp, on aurait pensé qu'elle aurait disparu. Mais pas du tout.
Vous parlez au contraire d'un encampement du monde.
Ah, tout à fait. Alors, les camps aujourd'hui, on parle de l'Europe, mais on pourrait parler de l'Australie, des États-Unis, de l'Afrique du Sud, ou la déportation des étrangers. C'est-à-dire, en gros, des Africains venus des États voisins. Et cette déportation, elle fait partie du fonctionnement normal, ordinaire de l'État sud-africain. Et donc, c'est pas uniquement une affaire européenne. Les barbelés, les murs, les dimensions électroniques des frontières, le fait qu'au fond, les frontières sont devenues presque portables, puisque inscrites presque littéralement sur les corps d'abjection. Tout cela fait partie, effectivement, de la nécropolitique contemporaine.
Alors, face à cela, Achille Mbembe, que peut-on faire? Il y a une idée que vous défendez depuis plusieurs années, c'est celle de l'ouverture totale des frontières en Afrique. C'est une utopie ou ça vous semble concrètement possible compte tenu de la diversité très forte sur le continent africain lui-même?
Mais le fait historique est que il n'existait pas de frontières en Afrique jusqu'à, je dirais, 1884. Il n'y en avait pas. Les frontières en Afrique, telles qu'on les connaît aujourd'hui, datent d'il y a à peine 110, 120 ans.
Oui, cette idée de la circulation, elle fait profondément partie de l'histoire du continent
africain. Elle fait. En fait, c'est le moteur de l'histoire des civilisations africaines. Ce sont des cultures et des formations sociales et politiques qui reposent sur le principe de la mobilité. C'est le mouvement qui crée l'espace. Alors qu'en Occident, la logique, elle est différente. En Occident, c'est l'espace qui détermine le mouvement. En Afrique, historiquement, c'est l'inverse. C'est le mouvement qui crée l'espace. C'est le mouvement qui structure les flux, qui structure les réseaux, y compris des réseaux de longue distance. C'est ça qui permet la création des religions, des marchés, des communautés politiques aussi. Et donc, par le biais de la colonisation, on rentre dans une logique qui dénie complètement les grandes dynamiques qui ont permis aux sociétés africaines de se reproduire dans le temps long et de se projeter au sein d'un espace évidemment varié et multiple. Et donc, si l'Afrique veut redevenir une puissance propre, la première démarche, c'est de réaménager ses frontières internes, au besoin en les abolissant.
Et ça vous semblerait possible aujourd'hui?
Alors, évidemment, c'est-à-dire que il faudrait y aller pas à pas. On ne peut pas les abolir du jour au lendemain. Mais je vais vous donner un exemple, l'exemple de deux villes, Kinshasa, au Congo démocratique, et Brazzaville. Les deux capitales se font face. De Kinshasa, vous voyez Brazzaville, et de Brazzaville, vous voyez Kinshasa. Les deux capitales sont séparées par un fleuve, le grand fleuve, le Congo. Et alors, il suffit de construire un pont entre les deux pour relier ces deux villes. Pourquoi il n'y a pas de pont entre Brazzaville et Kinshasa? Les raisons sont nombreuses, mais il va de soi, c'est du sens commun qu'un pont relie ces deux villes.
Et alors, qu'est-ce qu'il en est, à vos yeux, de la question de la circulation entre les continents? Est-ce qu'avec cette idée d'ouvrir toutes les frontières en Afrique, il n'y a pas le risque d'aller un peu dans le sens de la citadélisation de l'Europe.
Écoutez, alors, il faut commencer par ce sur quoi on a prise. Je ne pense pas que nous ayons prise sur ce que l'Europe veut devenir. Si l'Europe veut devenir un jardin, bon, elle deviendra un jardin ou un musée. Mais nous avons prise sur ce que nous pouvons devenir ou ce que nous devons devenir. L'Afrique doit s'ouvrir sur elle-même, et cette ouverture sur elle-même fera en sorte que, grâce à ce nouveau régime des échanges, de la circulation, qu'une mise en réseau de ces forces vivantes devienne possible et qu'elle puisse, au bout du compte, se mettre debout sur ses propres jambes. C'est ça l'horizon, si vous voulez.
Et alors cette question de l'ouverture et de la circulation, c'est aussi celle de la circulation des idées. Vous avez créé avec votre ami sénégalais, l'écrivain et universitaire Felwine Sarr, les ateliers de la pensée de Dakar. Il y avait la nécessité d'un espace africain de rencontre intellectuelle, artistique, créative.
Disons que il y a une énorme partie de la création générale africaine. Par création générale, j'entends évidemment tout ce qui se fait dans les arts, dans la pensée, dans le sport. Une partie de la création générale africaine qui est faite à l'extérieur du continent, dans les diasporas en particulier. Une grosse partie aussi se fait à l'intérieur du continent. L'idée avec Felwine, c'était de rapatrier en Afrique, créer en Afrique même un lieu de rencontre et d'échange au cours desquels toutes ces forces de la création pourraient partager, imaginer, disons, des chemins nouveaux pour le continent et relire le monde, mais à partir du continent lui-même. D'où la mise en place des ateliers de la pensée de Dakar, qui en sont à leur quatrième session, si vous voulez. Et donc, c'est ce que l'on a fait. S'y rencontrent des artistes, des activistes, des chercheurs, des universitaires, des intellectuels, une fois tous les deux ans, dans ce qui est devenu, au fond, la fête des idées la plus intéressante de notre continent.
Parmi les concepts que vous avez créés à Chimembe pour nous aider à penser, il y a celui d'afropolitanisme. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que les ateliers de la pensée en sont l'une des incarnations?
Oui, je pense que les ateliers de la pensée sont une des incarnations de l'afropolitanisme, c'est-à-dire la capacité du continent africain à se projeter dans le monde et sa capacité à abriter en lui-même ce continent, le monde dans son ensemble, à être le monde en miniature et à contribuer par la force et la puissance de sa réflexion au bien du monde.
À Chimembe, en 2021, vous avez surpris, pour dire le moins, en acceptant la proposition d'Emmanuel Macron d'organiser un sommet Afrique-France qui a réuni à Montpellier des acteurs choisis de la société civile, mais aucun chef d'État africain, hormis le président français. Il y a eu à ce moment-là des critiques à votre encontre. Certains vous ont accusé d'avoir servi de caution intellectuelle au président français. Qu'est-ce que vous attendiez d'une telle rencontre?
Alors, moi, je n'attendais rien d'un point de vue personnel. Enfin, c'est-à-dire, moi, c'est des critiques qui me font sourire. J'en ai entendu tellement. La plupart sont absurdes, en réalité. L'important, c'est quoi? Le fait est que la France, l'Europe, l'Afrique, tout comme l'Afrique et l'Asie, l'Afrique et la Chine, et d'autres puissances, nous avons une histoire. Cette histoire, elle est ce qu'elle est. Elle est loin d'être terminée. Et donc, il faut réinventer les termes de sa poursuite. Et on ne peut le faire que autour d'un échange, d'un dialogue, de façon dialogique. On peut le faire, évidemment, par le biais de la guerre, mais la meilleure façon de le faire, c'est de discuter, de communiquer, c'est-à-dire d'échanger des projets. Quel type de projet ? Des projets qui ont pour objectif fondamental la réfection du monde.
Mais alors, par exemple, Achille Mbembe, parmi les projets que vous avez proposés à l'occasion du rapport que vous avez rédigé pour ce sommet, il y a la Fondation pour l'innovation de la démocratie, créée à l'université de Johannesburg où vous travaillez vous-même. Est-ce que la France doit jouer un rôle aujourd'hui pour parler des principes démocratiques en Afrique ? On parlait à l'instant de la question de la politique aux frontières, par exemple, qui est celle du gouvernement français. Comment la France peut-elle parler de démocratie aujourd'hui en Afrique et est-ce qu'elle le doit ?
Mais non, elle n'a pas parlé de... Non, c'est pas ça l'objectif de la fondation.
Elle est financée quand même en partie par la France.
Il faudrait que la France y mette davantage d'argent. Et c'est important, c'est bon, c'est absolument légitime. La fondation est une idée africaine. C'est nous qui avons conçu cette idée. Elle est sortie d'ici. C'est nous qui la mettons en œuvre. Les programmes de la fondation, c'est nous qui décidons de ces programmes. Et nous disons à la France, voilà, si vous voulez changer vos rapports avec le continent, vous devez démontrer visiblement votre engagement dans tel ou tel ou tel projet qui aura été conçu et mis en œuvre par les Africains. Voilà le gage de votre bonne volonté. Et c'est ce qui se passe, les Américains financent, les Allemands ils mettent beaucoup plus d'argent dans la démocratie en Afrique que la France. Et la France doit augmenter les ressources qu'elle met en soutien aux efforts de démocratisation du continent.
Et votre rapport préconise aussi une refondation complète des relations entre la France et l'Afrique. Il y a un chapitre qui est consacré aux différends à apurer, c'est son titre. Alors la liste est assez longue, France CFA, intervention militaire, ressentiment à l'égard des entreprises françaises, durcissement de la politique migratoire, impasse mémorielle. Mais aucun de ces différends, écrivez-vous, n'est aussi corrosif que l'appui présumé de la France à la tyrannie sur le continent. C'est ce qui est ressorti des très nombreuses discussions et rencontres qui ont accompagné ce sommet.
Oui. L'idée est que la France est contre l'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'elle soutient la tyrannie. Deux, parce qu'elle exploite les ressources africaines. Trois, parce qu'elle brutalise les Africains qui frappent à sa porte. La liste, vous le dites, elle est longue. Alors, le rapport propose 13 mesures qui pourraient permettre, si elles étaient effectivement mises en œuvre, au moins de créer les conditions d'un nouveau dialogue. Un nouveau dialogue, une fois de plus, autour de questions communes, de questions relatives à ce monde en commun qu'il nous faut de toutes les façons reconstruire.
En amont de ce sommet, il y a eu pendant plusieurs mois des rencontres avec plus de 3600 personnes dans 12 pays du continent africain et en France. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement surpris dans ce que vous y avez entendu ?
Non, ce qui m'a surpris, c'est deux choses. Un, la profondeur du rejet. La profondeur de la faillite à la fois morale, intellectuelle et politique de la France en Afrique. C'est ça le scandale, si vous voulez. J'ai jamais autant été à l'écoute des gens. Vous disiez 3600, en fait, c'est le double. 65 séances publiques, des tas de notes, dossiers à lire. C'est quelque chose d'assez vertigineux. Et de très profond. Et donc, ça prendra des générations si effectivement l'objectif c'est de renouer le fil d'un dialogue d'égal à égal. Si l'objectif c'est de mettre en place des outils neufs et intelligents qui nous permettent de co-construire et de passer d'une relation qui enchaîne à une relation qui libère.
Et votre rapport préconise aussi de redécouvrir les racines africaines de la France. De quelle,
oui,
de
alors
quelle
là,
façon?
Il y a au moins 6 millions de personnes dans la population française qui a quelque chose à voir avec l'Afrique. 6 millions, c'est quand même pas rien. Et donc là, on préconise en particulier dans le rapport la création à Paris d'une maison des mondes africains. On est en train d'y travailler au moment où je vous parle. La maison serait le symbole même de la reconnaissance de cette part africaine de la France et de la part française de l'Afrique, réciproquement, et servirait de lieu de création pour tous ceux qui, à partir de cette origine africaine, voudraient contribuer une fois de plus au bien du monde.
Et puis j'avais envie, Achille Mbembe, de terminer notre discussion de ce soir en parlant de la langue, cette langue dans laquelle vous écrivez et qui nous emporte. Vous dites que nous avons besoin d'une langue qui fore, qui perfore et qui creuse comme une vrille, qui sache se faire projectile, et que c'est aussi cette langue qui pourra sauver la vie du désastre qui guette. C'est en français que vous écrivez. Cette langue, vous dites qu'il faut la dénationaliser. Il faudrait voir davantage à quel point elle est une langue monde.
Mais en fait, il faut déplacer l'Académie française de Paris à Kinshasa, parce qu'en fait, le futur de la langue française, c'est dans le bassin du Congo que ça se joue. Alors, le dire, c'est évidemment faire un rapport entre la langue et la démographie, mais c'est un peu plus que ça. Les grands poumons de notre monde aujourd'hui, c'est dans ces régions qu'il faut aller les chercher, qu'il s'agisse des poumons naturels ou des poumons relatifs à la puissance de création.
C'est aussi sortir d'une idée en réalité très franco-française qui est celle de la francophonie.
Tout à fait, c'est de cela qu'il s'agit, c'est d'aspirer à réinventer une langue monde en fait. Une langue monde parce que au fond, une langue terrestre qui se nourrit de la sève même, de la terre avec tes majuscules.
Eh bien, cette langue monde, nous continuerons à la parler demain avec vous, Achille Mbembe, en parlant de la dernière utopie, celle de la communauté terrestre. Merci beaucoup, bonne soirée à vous.
Merci à vous.
C'était À voix nue avec Achille Mbembe. Réalisation Marie Placet. Prise de son Mathieu Leroux, chargé de programme Daphné Abgrel, coordination Florian Delorme. Une série d'Amélie Perrault à réécouter et podcaster sur franceculture.fr et l'application Radio France.